Ce soir, nous avons la chance d'avoir comme invitée Eva Jospin à l'occasion de sa nouvelle exposition à Paris, au Musée de la Chasse et de la Nature, exposition intitulée Galleria. Mais ce week-end, nous avons appris la disparition d'Ethel Adnan. Elle aimait la lumière, elle aimait la beauté du monde, elle s'émerveillait de tout. Je crois que c'était cela sa force de vivre et la force de vivre. Tous les matins et jusqu'à la fin de sa vie, elle est morte, elle avait 96 ans, elle commençait par peindre et par dessiner. Elle était philosophe, poète, artiste et nous sommes nombreuses et nombreux aujourd'hui à la pleurer. Elle nous a enseigné à regarder, à comprendre ce que veut dire vivre et résister. Elle nous a transmis la nécessité de l'appel à la beauté et nous a fait comprendre que les artistes pouvaient agrandir notre vision du monde. Elle était reconnue seulement depuis 20 ans par le monde entier et exposée dans tous les musées. Et elle avait coutume de dire en riant que finalement, c'était très compliqué, la notoriété. Elle était née à Beyrouth, elle était venue en France faire des études de philosophie, puis elle était partie aux États-Unis enseigner l'art en Californie. À force de regarder les montagnes, elle a commencé à les peindre. Artiste visuelle, mais aussi artiste de la langue, polyglotte, arabe, anglais, français. Elle faisait de la matière même de son existence le sens de sa création. Nous l'écoutons il y a 2 ans, elle nous parlait de ses rêves. Ethel Adnan.
Il y a un état du rêve. Quand on rêve, on sait rarement qu'on rêve. Mais quand on se réveille, on voit, on porte en soi presque une température du rêve, comme une chaleur du rêve. Par rêve, il veut dire presque une pré-pensée. Parfois, il y a un halo autour de la pensée. Il y a une surface de la pensée. Il y a un petit monde. Et c'est très intéressant. Pas seulement le rêve comme expérience, qui est intéressant parce que c'est une fenêtre, le rêve. Comme si le monde n'était pas assez grand, il y a aussi des ouvertures sur d'autres mondes. Parfois, quand j'avais des cauchemars, je me disais, mais c'est moi qui fabrique ces cauchemars. Pourquoi est-ce qu'on se fait ce mal? Mais aussi, on fabrique des expériences, de vraies expériences, comme de survoler. On a l'impression d'avoir survolé très souvent, comme nager au-dessus, pas dans la rivière, mais parallèle au-dessus. C'est quand même des expériences qu'on n'a pas physiquement impossibles dans l'état de veille. Le fait de rêver en lui-même est impressionnant.
Et créer, c'est ne pas penser, enfin, c'est abandonner la pensée quelque part et s'abandonner à l'imaginaire, pour vous, éternellement
C'est-à-dire, créer est une forme de pensée, c'est abandonner un certain monde de préoccupations pour entrer dans le nôtre. J'aime bien aussi le mot faire. Le mot créer me rappelle trop les religions. Je ne sais pas pourquoi. On a séparé les créateurs des non-créateurs. Et tout le monde crée. Tout le monde fait des choses qui sont parentes au monde de l'art, de la philosophie. Il n'y a pas de coupure absolue. Il y a des intensités différentes. Maintenant, je suis étonnée par des questions métaphysiques que les enfants posent. Ils ont une liberté telle qu'ils arrivent à vous surprendre et à avoir des remarques. Maintenant, on ne les copie pas, on ne les publie pas, heureusement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas là des moments de haute pensée, comme ça, des fulgurations.
Nous venons d'entendre la voix d'Ethel Adnan. Tout à l'heure, nous reparlerons d'Ethel avec Eva Jospin, qui est ce soir notre invitée. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et en avant, et on continue avec le rêve, avec Agnès Obel, Riverside.
trays, look at the stones on the river bay. I can tell from your eyes, you never been by the riverside. Down by the water, the river bay, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away.
Enfant, Eva Jospin, vous étiez déjà une artiste. Vous pensez, comme Etel Adnan vient de le dire, que tout le monde est artiste?
Je pense que tout le monde a l'envie de transformer le monde. Quelque chose fait qu'on n'est jamais vraiment satisfait de comment c'est et qu'on veut tous un peu faire autrement à chaque fois qu'on arrive en fait sur Terre, chaque génération. Mais oui, j'étais un peu une enfant artiste. Enfin, je me projetais dans l'idée de devenir peintre assez vite. Dès l'âge de 5, 6, 7 ans.
Vous fabriquiez des choses, vous dessinez toute la
oui,
journée.
Oui, je dessinais beaucoup. Et puis j'étais aussi très impressionnée par le théâtre. Mes parents m'emmenaient au théâtre assez jeune, donc j'ai vu aussi à travers les décors qu'on pouvait faire le métier de l'imaginaire. Je voyais des gens qui pouvaient vraiment faire ça, adultes. Et je me suis beaucoup imaginée artiste petite, oui.
Et pourtant, à la fin de l'adolescence, vous avez pas mal galéré sans savoir véritablement ce que vous vouliez devenir.
J'avais envie pendant un moment de peut-être de faire de la scénographie parce que j'avais l'impression que ça pouvait réunir mon amour du dessin, de la peinture et en même temps mon intérêt pour le théâtre. Juste après le bac, je me suis inscrite un an en architecture, mais dans l'idée plutôt de faire de la scénographie. Et puis ça a été, oui, une décision pas si légère que ça, de choisir de faire les beaux-arts. Ça fait un peu peur, en fait, parce que, oui, c'est une école pour juste se former à trouver un travail, à trouver un travail personnel, une création, mais on sait pas où elle va atterrir. Et il y a beaucoup d'inconnus dans ces vies d'artistes. Alors je l'ai pas choisi de façon légère, mais en tout cas c'était un appel qui était irrésistible. Créer, c'est abandonner une forme de préoccupation, vient de dire Ethel Annan. Vous partagez cette idée de l'artiste?
Ben, je dirais que quand on crée, en tout cas moi, ce que j'essaye, c'est d'être absorbée. C'est ça qui me plaît et qui m'attire, en fait. C'est aussi pour ça que souvent je fais des œuvres qui ont une forme de répétitivité, parce que il y a une possibilité de s'absorber justement dans l'accumulation du geste, dans la répétition du geste. Et c'est vrai que c'est une sensation extrêmement agréable, parce que quand on est absorbé par son travail ou par quelque chose de manuel en général, hein, c'est de ce point de vue, elle a raison. C'est pas une expérience seulement que les artistes peuvent vivre, parce que je pense que certains bricoleurs du dimanche ont les mêmes sensations. Mais on devient un instrument. On pense plus très bien. On pense plus à soi comme une personne, un homme, une femme, quelqu'un de jeune ou vieux. On est ce que notre corps peut nous permettre de faire pour fabriquer cette chose. Donc, quand il faut de la dextérité, on est précis. Quand il faut de la force, on essaye de l'être. Mais et on accompagne peut-être aussi l'instrument qu'on a dans les mains. On est une extension de son instrument.
Et on peut dire, en ce qui vous concerne, Eva Jospin, que vous êtes une artiste manuelle en le revendiquant haut et fort.
Oui, mais parce qu'il y a un véritable plaisir dans la manualité, et je pense que c'est important de comprendre, dans un parcours, dans une recherche, en quoi on a quelque chose de particulier. Et c'est vrai que moi, j'aurais pas pu exclure le rapport à la main dans mon travail, parce que c'est une des sources principales du plaisir que j'y trouve.
Est-ce la main qui pense, comme le disait le roi Gourand?
Je crois, oui, je pense qu'en fait, il y a, enfin en tout cas que les œuvres, pas seulement les œuvres visuelles, mais en tout cas les arts plastiques, oui, sont des pensées en forme. Et la forme, c'est un peu ou beaucoup la main qui les façonne.
Quelle continuité y a-t-il entre la pensée de l'œuvre et l'exécution de cette même œuvre? Je pense par exemple à ce cénotaphe que nous allons pouvoir découvrir au musée de la chasse et de la nature, et qui est, je crois, le fruit de centaines, peut-être plus de milliers d'heures que vous avez passées à le concevoir, à le construire, à le finir, Eva Jospin.
Je dirais qu'en fait, il y a plusieurs sortes de projets. Il y a des projets que je vais rêver longtemps, comme par exemple un projet que j'ai fait pour au musée Rodin pour les décors du défilé Dior, qui était une broderie de 95 mètres de long, et ça faisait 4 ans que j'avais envie de faire ce projet, et il a trouvé sa vie dans cette situation-là. Donc parfois le projet, c'est attendre et le rêver beaucoup, l'imaginer, s'en nourrir.
Mais faire la broderie de 95 mètres de long, ça prend du temps aussi.
Oui, alors c'est pas moi qui l'ai fait, mais en tout cas c'est moi qui l'ai conçu, rêvé et imaginé. Et donc parfois un projet, c'est se nourrir de plein d'influences qui vont nous permettre de patienter. Et parfois c'est aussi aller un peu plus vite, mais ensuite dans le moment de la conception, réorganiser les idées. Et c'est vrai que pour arriver à une idée, il y a des petites cannes, il y a des petits appuis, des petites rêveries qui nous inspirent et nous permettent d'attendre le moment où ça va être fait. Parce que les œuvres, généralement, prennent plusieurs mois à être réalisées, et je les vois à la toute fin. Donc il faut que je les imagine beaucoup plus que pendant des mois avant de pouvoir réellement les voir. Ce sont des puzzles, ce sont des assemblages. Donc il faut porter un peu une vision à l'intérieur pour tenir et avoir la patience d'attendre et de la voir se révéler dans les derniers jours.
Alors on vous a connu et reconnu il y a une bonne quinzaine d'années. On se souvient de vos forêts magiques qui nous ont transportés dans un ailleurs et pourtant bien réel. On sait que vous êtes une artiste qui est très inspirée par la nature, par la géologie, par l'archéologie aussi, par tout ce qui nous environne dès qu'on marche dans du vivant, sans forcément s'en rendre compte. Et ce sentiment de la nature, il y avait une grande artiste qui était aussi plasticienne d'ailleurs, et cinéaste, Agnès Varda, qui va nous en parler. Elle va nous parler de ce sentiment de la nature, notamment au moment de la sortie de son film, c'était en 1965, film que vous n'avez peut-être pas vu, Eva Jospin, qui s'appelait Le Bonheur, et qui racontait une histoire d'amour à trois, mais cette histoire d'amour se passait déjà complètement dans la nature. On écoute la voix d'Agnès Varda qui parle de la nature, c'était le 9 août 65.
Le sentiment de la nature, pour moi, c'est un des sentiments basiques. il conditionne pratiquement tous les autres sentiments. Il y a des gens qui sont en rapport plus net avec les éléments naturels, mettons, que d'autres. Mais ils sont en tout cas proches des éléments naturels dans lesquels ils vivent, même si leur sentiment n'est pas un sentiment de nature. Je veux dire, le personnage du bonheur éprouvait un sentiment très fort de la nature. Alors lui, nettement, c'est un être. J'ai même été jusqu'à dire qu'il s'apparentait plus au règne végétal qu'au règne animal ou humain, dans la mesure où, vraisemblablement, il avait une espèce de vie végétative très liée aux saisons, cette espèce de, d'éclosion et mûrissement comme ça de la vie végétale.
Nous venons d'entendre la voix d'Agnès Varda, et quand je vois votre travail, Eva Jospin, quand je vois vos installations, quand je vois la beauté qu'elle inspire, et quand je vois le respect aussi et l'admiration qu'elle suscite, je me dis, puisez-vous dans des promenades en forêt ou dans des longues marches à travers la nature, le sentiment et la nécessité de pouvoir en faire une œuvre d'art à votre manière.
C'est un peu les deux, c'est-à-dire que il y a évidemment des promenades en forêt, mais je pense que j'ai aussi, comme beaucoup, finalement ressenti un appel d'une envie d'ailleurs. Alors ça m'est peut-être arrivé un tout petit peu avant le confinement, mais je crois que le moment où j'ai commencé à faire mes forêts, c'était aussi un moment où j'avais changé d'atelier. J'étais dans un atelier au Frigo, dans un ancien bâtiment industriel, avec un quartier qui était en train de se construire autour de moi. En 2 ans, il y a des immeubles qui ont poussé devant mes fenêtres. Et je crois que j'étais aussi dans un espace extrêmement minéral, extrêmement citadin. Et ça m'a touché ce que disait Etel Adnan précédemment, parce que elle parle du rêve et de la pensée comme une fenêtre, comme un monde. Et je crois qu'au fond, au début, ces bas-reliefs de forêt, c'était aussi comme ouvrir une fenêtre dans tout ce béton, dans toute cette minéralité. C'est presque une vision un peu de dessin animé où on dessine sur le mur et puis hop, on pénètre. Et il y avait voilà cette idée aussi de passage, d'ouverture, de sas qui pourrait nous faire accéder à un ailleurs. Donc c'est vraiment à la fois très concret, parce que forcément pour représenter ces forêts, j'ai aussi beaucoup regardé comment les choses s'entremêlent, comment elles se mélangent, comment sont les sols. Je regarde beaucoup les sols en forêt, parce que c'est ce qui est le plus difficile au fond à représenter, parce qu'il faut faire un effort d'abstraction complet pour représenter un sol de forêt dans mes bas-reliefs. Mais en même temps, il y a quand même aussi cette envie d'échapper. Et je crois que le retour à la nature et au paysage, alors il est de plus en plus évident et prégnant aujourd'hui, mais il y a déjà une dizaine d'années, c'était un retour qui était en train de s'opérer dans l'art. Et je crois qu'il était aussi lié à cette envie de se créer un monde à soi, en fait. Et de proposer des œuvres qui soient très frontales et que l'on puisse pénétrer et qui soient à nouveau peut-être une chose qui était un peu moins forte pendant quelques temps, des propositions directes, des mondes à parcourir. Et plutôt que des œuvres qui faisaient référence à d'autres œuvres et des œuvres valises où il faut avoir un peu plus de connaissances parfois pour les pénétrer, les connaître. Et je crois que moi j'ai eu envie de retrouver comme ça ce lien extrêmement direct et proposer aussi une expérience directe pour les visiteurs.
Alors dans ces forêts qui s'intitulent bas-reliefs, on ne peut pas rentrer. On peut les admirer, vos forêts, mais il est impossible d'y rentrer. Et on sait bien que la forêt, ça suscite le rêve, mais ça suscite aussi le mystère, mais ça suscite aussi la peur. Dans la plupart des contes qu'on raconte à nos enfants, il y a beaucoup de gens qui se perdent, peut-être à tout jamais, dans ces forêts. Donc elles inspirent le respect, et particulièrement les vôtres, Eva Jospin, mais en même temps un peu de l'effroi, non ?
Ah oui, absolument, parce que les forêts sont des lieux où en effet on peut se perdre. Et concrètement, dans une forêt, il faut, si on veut se promener dans une forêt, ce sont des vrais lieux de la connaissance. C'est-à-dire que il faut connaître concrètement une forêt pour pouvoir s'y déplacer. Les gens qui connaissent très bien un bout de territoire forestier qu'ils ont autour de chez eux pourraient même la traverser la nuit. Ce qui paraît fou quand on découvre une forêt qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire que c'est vraiment une connaissance extrêmement précise. Donc ça, c'est assez fascinant. Et en même temps, la forêt, ça a été aussi le lieu
De la cachette, mais ça a été aussi le lieu des enlèvements. Pendant un certain temps, on enlevait des nobles, il y avait des demandes de rançon avec des brigands qui se cachaient dans les bois, on les retrouvait pas. C'est aussi des lieux où des gens se sont cachés pendant des guerres. C'est aussi des lieux où il y a eu des événements assez terribles. Donc c'est vrai que ça évoque un peu toutes ces possibilités, et ça évoque aussi la possibilité d'une rencontre fortuite, puisque dans une forêt, on peut toujours se retrouver nez à nez avec un animal, avec une personne, ou avec soi-même aussi, évidemment.
Alors, votre travail, Eva Jospin, ne s'apparente pas au Land Art, même s'il est peut-être dans une lignée assez droite par rapport à cette réflexion sur la nature, parce que c'est vous qui fabriquez, à partir de la nature, des morceaux de nature que nous, spectateurs des musées ou des galeries, allons admirer. En même temps, il renouvelle constamment l'appréhension et la perception et l'élévation que procure ce sentiment de la nature, parce que votre grammaire artistique s'alimente uniquement avec des éléments venus de la nature. Alors bien sûr, il y a le bois, il y a l'écorce, il y a le liège, mais il y a même des cupules de petits bouchons laissés par terre dans les forêts au moment de l'automne.
Oui, c'est vrai, il y a des cupules de chêne, du liège, des éponges, il y a des éléments marins aussi, parce que ça c'est mon goût pour les grottes baroques et leurs éléments marins, parce qu'il y avait beaucoup de coraux dans ces grottes, et alors on imaginait que c'était aussi la façon dont les roches se créaient, et ce rapport à la pétrification comme ça, donc certains éléments sont comme ça dans la forêt. Mais c'est vrai que c'est assez différent du Land Art, parce que le Land Art se situe autour du travail directement dans l'environnement naturel et crée généralement une trace éphémère qui est une trace animale. Donc de ce point de vue, ça nous rend à nouveau très animaux dans le Land Art. Alors elle est un peu plus spectaculaire dans le Land Art, un peu plus maîtrisée, peut-être plus esthétique, mais elle intervient directement dans le paysage et n'a pas vocation à durer. Moi, je suis au fond une artiste assez classique, puisque au fond, je fais de la représentation, je représente et je joue avec des éléments, parce que je crois que ce que j'ai le plus apprécié dans toute cette ouverture et tout ce foisonnement qu'il y a eu tout le long du XXe siècle et encore aujourd'hui dans l'art, c'est la déclassification des matériaux et la possibilité d'aller tous les utiliser comme on veut, de plus se préoccuper de savoir si c'est durable, pas durable. Et je crois que dans les œuvres d'art contemporain, celles qui m'ont souvent le plus touchée, c'était souvent des œuvres qui jouaient justement sur la transformation du matériau. Je pense à ces énormes blocs de savon de Joseph Beuys, ou des œuvres de Eva Hesse qu'elle a fait en latex, qui ont vieilli bizarrement, mais qui sont toujours extrêmement étranges, comme des cocons, des choses très organiques. Ou bien tout le travail avec de feutrines que faisait Robert Morris. Et c'est des choses, quand on voit mon travail, on se dit pas que vraiment ça a un lien. En tout cas, esthétiquement et dans la représentation, ça n'en a pas. Mais dans l'idée de l'utilisation et de la liberté qu'on peut prendre aujourd'hui pour tout prendre, tout utiliser comme matériau possible des œuvres, ça, je trouve que c'est une chose qui est extrêmement intéressante et dans laquelle je me suis plongée à travers ce matériau du carton.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Eva Jospin, Ornella Vanoni.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma alla nostalgia di rivedere te, è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
La grotte de Lascaux, à quelques 25 mètres sous terre, sous cette campagne périgourdine qui déploie, qui déroule sous le soleil ses bois, ses plaines, ses collines, ses vallonnements. Mais avant de vous décrire cette grotte et avant surtout de vous parler des peintures qui en font le principal intérêt, nous voudrions remonter non pas à ses origines, mais tout au moins aux origines de sa découverte. Nous avons à côté de nous les deux garçons qui, eux, l'ont découverte. Il y a combien de temps exactement que vous avez découvert cette grotte?
8 ans, monsieur.
C'était de quelle date, vous vous en souvenez certainement?
Septembre 40.
Quels sont vos noms?
Moi, Jacques Marsal.
Et Marcel Ravida.
Alors, racontez-moi dans quelles circonstances, comment vous avez été amené à découvrir cette grotte?
C'est tout à fait par hasard. C'est-à-dire que nous chassions dans les environs, et justement le
et
chien...
Et vous y preniez de bonheur pour chasser, dites-moi.
On chassait sans fusil.
Oui, ah bon?
Le chien de mon camarade, qui suivait un lapin, est descendu dans un trou, et c'est le chien ne pouvant plus remonter, nous nous sommes décidés à descendre, et c'est comme ça que la grotte a été découverte.
Et alors là, quand vous avez été dans cette grotte, vous aviez quelque chose pour éclairer, pour voir?
Non, le premier jour, nous n'avions que des allumettes. Alors, nous avons simplement vu que c'était une caverne assez vaste. Et le lendemain, nous sommes revenus avec des lampes à acétylène.
Et vous n'aviez toujours rien dit à vos autres camarades ou à vos parents?
Non, non, on n'avait rien dit.
Vous aviez gardé ça pour vous?
On l'avait gardé pour nous.
Nous venons d'entendre donc successivement Ornella Vanoni. J'imagine que c'est un hommage à vos années... de la Villa Médicis, puisque vous avez été lauréate de la Villa Médicis, Eva Jospin, mais c'est votre amour de l'Italie et de tout ce que vous puisez dans l'histoire de l'art italien pour alimenter votre imaginaire. Et puis, nous avons choisi de vous faire écouter ce reportage qui date du 25 septembre 1948. Ce monsieur, Michel Droit, qui interviewait Marcel Ravida et Jacques Marsal, qui ont découvert la grotte de Lascaux. Parce qu'évidemment, dans votre travail artistique, Eva Jospin, il y a de l'enchantement, il y a du mystère, il y a du déplacement de soi, il y a de la joie magnifique d'essayer de comprendre nos origines. Et il y a des grottes. Partout, il y a des grottes. Dans chacune de vos créations, que ça soit dans des jardins ou que ça soit dans des grands paysages que vous avez inventés, eh ben, il y a des grottes. Qu'est-ce qu'on fait dans une grotte? Et avez-vous été à la grotte de Lascaux?
Non, toujours pas. Il faudrait. Mais
c'est l'origine de l'art.
Oui, et c'est très drôle parce que l'origine de l'art a été découverte en 1940. Comment on a fait? Tous les peintres, pour nous, c'est, enfin, je dis nous, je suis plus du tout peintre, mais j'ai fait de la peinture quand j'étais au Beaux-Arts, mais c'est vraiment un fil qui se tire depuis cette origine-là, et il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît pas. Et je me dis, mais comment on a fait pour les découvrir quand, en 1940, comment on faisait avant? Et sur les histoires des grottes, moi j'aime beaucoup l'histoire de la découverte du Domus Aurea à Rome, puisque c'est un garçon, un peu comme ces deux garçons qui ont d'ailleurs une voix fantastique, parce qu'ils parlent tellement bien, et ils sont si jeunes, mais ils parlent avec un français vraiment très, très élaboré. Et alors c'est un jeune garçon qui est tombé dans un trou à Rome. Et puis, en fait, c'était le Domus Aurea, et ils ont découvert toutes ces peintures qu'on a appelées de style grotesque et qu'on a ensuite reproduit à partir du baroque dans tous les palais italiens. Donc, on voit des satyres avec des pattes avec des cornes, des gerbes de fleurs, etc. Et le style grotesque, c'est en fait, l'origine, c'est pas du tout, ne décrit pas ce style, mais décrit les conditions de la découverte de ce style. Parce que, voilà, c'est sous terre et c'est aussi un hasard. Et c'est vrai que, voilà, la grotte pour moi et la forêt aussi sont un peu dans mon imaginaire, mais pas que dans le mien, l'idée d'une architecture archaïque. C'est-à-dire que la grotte, ce serait la voûte, ce serait, je sais pas moi, le Panthéon à Rome, mais c'est Lascaux. Et puis les arbres, ce sont les colonnes, les temples, les palais. Et je crois aussi que dans cette recherche aussi de ces grottes, de ces origines, ça raconte que les formes se déplacent, se répètent, et que l'origine est perdue surtout. On la retrouvera pas. Et on a un long récit d'une origine qui a disparu à jamais. On n'arrivera jamais à remonter à la source de cette origine. Et je pense qu'on va aussi toujours se poser la question et chercher à remonter le plus loin possible dans le temps. C'est ce que font aussi les archéologues, ou c'est ce que font aussi les astrophysiciens, d'une autre façon. Donc on a cette envie d'aller à la source, mais la source, comme mes forêts, on reste à la lisière, elle s'éloigne. Plus on s'en approche, plus on s'en éloigne.
Inventeuse de formes, Eva Jospin, vous l'êtes. Vous utilisez aussi des matériaux qui sont très rarement utilisés. Vous ne faites pas simplement peur, mais vous faites aussi envie, car les jardins, vous les aimez et vous les célébrez. Je voudrais vous faire écouter une archive assez incroyable de Michel Foucault à propos du jardin, parce que je pense qu'elle correspond peut-être à votre idée de la signification du jardin. Michel Foucault, archive INA, 7 décembre 1965.
Peut-être le plus ancien exemple d'hétérotopie serait le jardin. Le jardin, création millénaire, qui avait certainement en Orient une signification magique. Le traditionnel jardin persan est un rectangle qui est divisé en quatre parties. Ces quatre parties représentent les quatre parties du monde, les quatre éléments dont le monde est composé. Et au milieu, au point de jonction de ces quatre rectangles, il y avait un espace sacré, une fontaine, un temple. Et autour de ce centre, toute la végétation du monde, toute la végétation exemplaire et parfaite du monde devait se trouver réunie. Or, si on songe que les tapis orientaux étaient à l'origine des reproductions de jardins, au sens strict du terme, des jardins d'hiver, on comprend la valeur légendaire des tapis volants, des tapis qui parcouraient le monde. Le jardin, c'est un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique, et le tapis, c'est un jardin mobile à travers l'espace. Était-il d'ailleurs parc ou tapis, ce jardin que décrit le conteur des mille et une nuits? On voit que toutes les beautés du monde viennent se recueillir en ce miroir. Le jardin, depuis le fond de l'Antiquité, est un lieu d'utopie, On a peut-être l'impression que les romans se situent facilement dans des jardins. C'est qu'en fait, les romans sont sans doute nés de l'institution même des jardins. L'activité romanesque est une activité jardinière.
Voilà cette archive magnifique de Michel Foucault qui correspond bien au sentiment que nous, spectateurs de votre travail artistique, Eva Jospin, nous ressentons quand nous voyons, est-ce que je peux dire le mot construction de jardin, ou est-ce mieux de dire réinvention de jardin ?
Bah oui, je dirais construction, c'est bien, parce que en réalité, moi, j'aimerais faire mon vrai jardin. Alors, j'y suis pas encore, donc j'espère qu'à un moment, je vais pouvoir créer mon paradis, puisque c'était le nom des jardins en Perse. Un paradis, c'était un jardin. Et donc voilà, je suis aussi touchée par cet archive de Foucault. C'est vrai que ce qu'il a écrit sur les hétérotopies, ça peut être les jardins, les cinémas, les théâtres, tous ces lieux où en fait il y a une suspension en fait, et les grottes aussi en sont, les espaces clos. Et moi, ce qui me touche aussi dans le jardin, c'est que parfois je les vois, alors ce n'est pas pour citer Gracq, mais comme l'idée d'un balcon, et qu'au fond le jardin.
D'ailleurs,
c'est...
votre exposition au musée de la chasse et de la nature s'ouvre. Alors, s'ouvre sur un balcon qui n'est pas un balcon, c'est-à-dire c'est un mur.
C'est un mur,
mais qui
oui.
nous donne la sensation de l'immensité de l'espace.
Oui.
Parce qu'il y a le mot balcon dans notre tête qui est associé. Donc, d'un balcon, on voit le monde.
D'un balcon, on voit le monde. Et le jardin est un balcon. Certains jardins ont des positions qui permettent d'embrasser un paysage tout entier. Et donc, ils vont être comme un balcon sur un paysage gigantesque. Donc, à l'échelle du paysage, à l'échelle d'une géographie, un jardin, ça, c'est un confetti, et c'est le balcon de la nature, en fait. Donc, cette partie ouvragée, recréée, maîtrisée, mais qui permet d'embrasser un paysage plus vaste, une vallée, une rivière au loin, une grande montagne, des champs à perte de vue, une forêt, voilà. Et c'est vrai que cette vision du jardin comme balcon et comme promontoire vers une vision plus large qui nous dépasse totalement et qui serait la vision de la nature et celle qui nous recouvre, qui nous engloutit, qui nous dépasse et à laquelle on n'arrive jamais à se confronter, puisque évidemment elle est bien plus puissante que nous. Donc je pense que c'est des questions qui ont agité les hommes et qui ont créé des besoins étranges de créer ces espaces, de maîtriser les choses. Et puis il y a aussi cette idée de déplacement des formes toujours, puisque l'ornement aussi est une forme de déplacement, parce que le végétal, il a parlé des tapis, mais si on regarde aussi les façades d'architecture, les frontons, les frises, le végétal est partout et dans la plupart des cultures humaines. C'est-à-dire que quand on regarde des architectures qui peuvent être qui ne sont pas européennes, et ben on retrouve aussi le végétal comme ornement. Et je pense que on a quand même besoin dans nos créations ou réalisations humaines à travers l'architecture d'orner tout ça et de faire revenir le lien à la nature qui est parce qu'on est toujours en fait en connexion avec le monde qui nous entoure, et même quand on fabrique et quand on éloigne et qu'on se sépare, on a quand même besoin de l'introduire dans nos mondes séparés.
Le jardin, c'est aussi la domestication de l'homme par la nature, en tout cas apparemment et pour un certain temps. Et à l'intérieur des jardins que vous avez conçus depuis une bonne décennie, Eva Jospin, il y a quand même l'idée d'un jardin folie, d'un jardin mythologique, peut-être du jardin de l'Éden, en tout cas d'un jardin où les déesses et les dieux pouvaient se donner rendez-vous.
Alors, je crois que c'est vraiment l'inspiration du jardin baroque, parce que j'ai l'impression, c'est comme ça que j'interprète ces jardins, mais c'est ce que je ressens quand je les visite, certains comme, bon, je vais donner des exemples, hein, parce qu'il faut que les gens les regardent et voyagent, mais comme par exemple la Villa d'Este ou la Villa Lita, enfin il y en a de très nombreux en Italie, en Allemagne aussi, mais en Italie particulièrement. Et en fait, on a l'impression que les créateurs de ces jardins se sont amusés à faire comme si la nature créait. C'est très étrange, parce que, en fait, ce sont des choses totalement artificielles. Pourquoi créer des fausses grottes ou des fausses cascades quand des grottes et des cascades existent? Ça n'a pas vraiment un grand sens, puisque une maison, on peut comprendre, on a besoin de s'abriter. Il n'y a aucune fonctionnalité à tout ça. Et donc, il y a quand même une mise en scène de l'idée de ce que c'est la création du monde. Mais les hommes se mettent à faire comme s'ils étaient des dieux, différents dieux, qui créent des espaces étranges où la nature, l'artificiel et le naturel se mélangent. Et ils prennent cette place, et au fond, pour moi, ce sont aussi des mondes théâtrales. C'est une vision vraiment qui n'est pas littéraire, mais qui est vraiment théâtrale, dans l'idée de la représentation du faux. Et je crois aussi qu'on a un immense plaisir à jouer avec le faux. Et c'est quelque chose qui procure oui, une joie presque enfantine. Et je pense qu'on l'a tous, cette joie enfantine face à l'artifice et à l'illusion.
En tout cas, vous, Eva Jospin, vous ne dédaignez pas vous affronter à l'immémorialité du temps. Vous acceptez, quand on vous fait la proposition, d'aller dans une abbaye, l'abbaye de Montmajour, non loin d'Arles, vous acceptez le pari d'essayer d'y faire une création dans un espace nu, traversé par les vents. Tout d'un coup, il faut essayer de trouver une forme, de l'inventer, et d'imaginer quelque chose qui puisse inspirer, peut-être pas forcément les hommes d'ailleurs, mais peut-être Dieu ou les dieux, s'ils existent comme ça dans les cieux. Et donc vous allez imaginer un cénotaphe absolument immense. Combien de mètres de haut faisait-il ?
10 mètres.
10 mètres de haut que vous allez construire pendant pas mal d'années et que vous allez installer. Et là, installé, il règne à l'intérieur de l'espace. Est-ce que vous faites partie des artistes qui travaillaient sur l'importance du lieu, ce qu'on appelle les artistes in situ ?
Oui, mais en fait, je pense que c'est très ancien, parce qu'en réalité, la plupart des œuvres qu'on regarde, à part certaines, sont anonymes et parfois mal attribuées aussi, hein, donc il peut y avoir aussi des erreurs. Et donc, les architectures ont été, les églises, les palais, toutes les architectures ont été aussi l'abri de l'anonymat de ces œuvres, et qui nous a permis aussi de les conserver. Donc le in situ, enfin la plupart des œuvres ont toujours été in situ. Finalement, le moment où elles ne le sont plus, c'est un moment qui arrive plus tard avec l'invention du musée, puis des galeries, puis du White Cube, mais c'est une chose très récente. On peut dire que sur le temps, les œuvres ont toujours été in situ. Donc je crois que je me relie à une longue histoire et qui se perpétue aujourd'hui. Bon, on en trouve
et
des
nouveaux. Et vous aimeriez bien être anonyme aussi, vous ?
Moi, je ne sais pas si j'aimerais être anonyme, mais je pense que les artistes le redeviennent très vite. Nous sommes là en ce moment des contemporains, on se parle à nous, on se parle pour nous, on s'intéresse au passé parce qu'il nous parle d'aujourd'hui, mais on ne sait pas dans une, deux, trois générations ce qui sera important pour les gens et de quoi ils auront envie de parler et qu'est-ce qu'ils auront envie de regarder. C'est très étonnant de voir aussi dans le temps, le passage d'intérêt au désintérêt pour des artistes qui nous semblent être des sommités. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui semble vraiment aujourd'hui une star incroyable, c'est Botticelli. Jusqu'au 19e, il était évidemment connu des historiens de l'art, mais il n'était pas cette figure aussi importante. Il le redevient au 19e siècle. Caravage, c'est pareil, c'est un artiste qui a été... quand on dit oublié, c'est toujours exagéré, parce que les connaisseurs savent où sont les œuvres, les connaissent, mais ça reste quelque chose de l'ordre des spécialistes. Et donc les destins des œuvres, les destins des artistes ont une histoire aussi qui est très variable. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que l'œuvre, c'est quelque chose d'immuable, la gloire, la célébrité, etc. Mais en réalité, il y a une histoire de la gloire, il y a une histoire de la célébrité très changeante en fonction des intérêts, des générations, des découvertes, et beaucoup, 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 beaucoup d'oubli, heureusement, parce que on arrive et on a envie de faire des choses nouvelles, donc il faut aussi laisser la place à tous ceux qui vont arriver et qui feront d'autres choses.
En tout cas, nous aurons la chance de pouvoir, à partir de demain, entrer dans votre galeria à Paris, au musée d'histoire de la chasse et de la nature. Nous allons éprouver ce sentiment de passer sous une voûte de nature recomposée, qui va tenir, dont elle donne même une impression d'éternité. Vous ne détestez pas la monumentalité et vous ne détestez pas non plus l'humilité, car votre dernier matériau, depuis pas mal d'années, mais là qui s'offre en grande majesté, c'est le carton. Le carton qui va nous donner l'illusion de la splendeur de la nature. Pourquoi ce carton ?
Le carton, c'est une longue histoire. Donc au départ, c'était plutôt une solution pour que rien n'arrête l'envie de création. Et comme je voulais faire des œuvres plus grandes, je voulais faire des œuvres plus monumentales, j'avais des questions de production, de coûts, et je me suis dit, mais en fait, il faut utiliser un matériau qui soit l'équivalent en sculpture du crayon. Quelque chose qu'on peut prendre, on peut s'en emparer. C'est là, c'est disponible à profusion, et il suffit juste de passer du temps pour le façonner, mais sans complication de matériaux, de coûts, de devis, de mécanismes. Et ça a été d'abord l'idée que je voulais utiliser un matériau qui ne me contraigne pas, qui au contraire. Et je crois aussi que l'utilisation de ce matériau a été quelque chose qui désacralise le rapport au travail, parce qu'en fait, c'est pas un matériau impressionnant. Vous le prenez, ça c'est pas bien, vous arrachez, vous défaites, vous le respectez pas particulièrement. Quand vous utilisez du carton, c'est pas comme si vous avez pris un bloc de marbre et vous dites, oh mon Dieu, là, j'ai gâché mon bloc de marbre, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Vous avez pas cette vision de la noblesse du matériau, et donc ça vous donne une immense liberté d'action, de repentir, de revenir, voilà. Et puis, à la suite de ça, je n'aurais pas pu imaginer que j'allais utiliser ce matériau aussi longtemps, mais il s'est trouvé que par la constitution même de ce matériau qui est fabriqué en strates, puisque c'est des couches de papier, puis une couche ondulée, une autre couche de papier, enfin, qui fonctionne comme ça en strates en mille feuilles, je me suis rendu compte que dans la plupart des choses que j'avais envie de représenter, il y avait une corrélation complète entre la forme du matériau, ses propriétés, et les choses que je représentais à travers le végétal, donc comme sur les anneaux des arbres, donc les couches, et aussi sur le minéral qui est souvent comme ça, une feuillure, une stratification, et donc ça m'a permis de continuer. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait une plasticité incroyable pour créer de nombreux mondes. Et puis aussi, je crois qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans la répétition, qui a été un peu plus abordé à un moment par les artistes de l'abstraction que par les artistes qui sont plus figuratifs, comme je le suis. Et en fait, cette répétition, elle ouvre des mondes parce que quand on insiste sur quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose qui ne peut pas se produire si on passe tout de suite à autre chose. Et c'est comme ça, de ce point de vue, je dirais que je me sens proche par moments des artisans. C'est comme ça qu'on développe un artisanat, justement, parce qu'il y a des répétitions du geste sur plusieurs générations, même des millénaires parfois, et c'est comme ça que le savoir technique humain s'est développé. On peut penser à plein de choses, évidemment, la taille de pierre, le bronze, la céramique, ce sont des matériaux qui ont été sans cesse retravaillés, perfectionnés, et cette répétition, elle ouvre des possibles. Et c'est pour ça que j'ai plongé dans un monde qui s'est pas refermé et qui a continué à s'ouvrir.
Ben merci infiniment, Eva Jospin. Ben on va pouvoir découvrir vos mondes à l'intérieur de cette nouvelle exposition intitulée Galleria, qui vient de commencer au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris, et ce sera jusqu'au 20 mars.
Que je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Les contes et sans bruit, les choses que l'on laisse pour ne pas devenir.
Et c'est avec Pomme et Au Clou que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Benjamin Troncin qui est à la régie technique ce soir. Merci à Élodie Royer, Cyrine Villegas, Iris Vertanessian. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et à Juliette Medevielle qui a réalisé cette émission.